Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Rouget, spécialiste de Jean-Christophe Averty. Thème de l'émission, Jean-Christophe Averty. Jean-Christophe Averty, je pense que, chers auditeurs, beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, Jean-Christophe Averty est né le 6 août 1928 à Paris et décédé le 4 mars 2017 à Beaumont-sur-Oise. Est un animateur et réalisateur de radio et de télévision. Dès les années 60, il révolutionne le petit écran français en mettant en image les plus grands chanteurs de variété, les plus anciens comme Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Michel Gilbert-Bécaud, Claude François, Serge Gainsbourg, Dalida, Yves Montand et encore d'autres. Et donc, la particularité de Jean-Christophe Averty, c'est que quand il a œuvré sur le petit écran, d'abord, c'était un animateur de radio et après de télévision. Et quand il a œuvré sur le petit écran, il était complètement décalé par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Des images découpées, des images qui fuyantes, mélangées avec d'autres sujets. Enfin bon, Philippe Rouget vous expliquera mieux. Et donc, Jean-Christophe Averty disait. Je me prends pour Méliès, j'ai cette faiblesse. Méliès, bien sûr, le premier qui a fait des images complètement décalées par rapport à ce qui se faisait, parce que Méliès, c'est quand même très ancien, hein, dans les années 20, je pense, hein, Philippe.
C'est le début du cinéma. Hein,
ouais, c'est le début du cinéma. Alors, j'ai cette faiblesse, je crois que je le suis, ou presque, une réincarnation vivante. Au moins, comme ça, on n'est pas déçus. Voilà. Enfin, je suis un pâle reflet de ce qu'il a été. Méliès avait eu la chance d'être le premier, et c'est une chance énorme d'être le premier partout. C'est le propre d'un être humain intéressant, c'est d'avoir des idées. Voilà. Jean-Christophe Averty se revendiquait d'avoir toujours des idées nouvelles. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes dans le monde du spectacle voulaient passer chez lui, parce que c'était complètement nouveau, quoi, décalé par rapport à ce qu'il faisait. Donc, et ensuite, son destin était un exemplaire, parce que c'est l'exemple même du génie écrasé par le fric et par l'opinion publique ricanante. Voilà, Méliès, on se moquait de lui. Mais en fait, quand il y a eu les Star Wars américains... Lucas, qui faisait les montages, se revendiquait de Méliès aussi. Donc, je pense qu'il a quand même laissé une empreinte indélébile sur le monde du spectacle, quoi. Donc, je passe la parole à Philippe Rouget qui vous en dira plus, parce qu'il l'a, et en plus, il l'a vraiment connu.
Oui,
donc, ça, c'est quand même très intéressant. Ouais. Il a discuté avec lui, il a peut-être été au restaurant avec lui, ils ont partagé des choses et tout. Donc, il l'a vraiment connu. Donc, je lui passe la parole.
Voilà, ben merci. Hein? Alors, je ne suis pas... Moi, je l'ai connu, en fait, c'est sur un projet qu'il y avait eu il y a quelques temps, quoi, quelques années avant sa mort. C'était un projet sur Melody Nelson avec Serge Gainsbourg, qui finalement n'a jamais eu lieu. Et en fait, moi, je connaissais Averty vraiment comme ça. Hein, comme et en fait, je suis tombé assez fasciné.
Vous l'avez connu comment?
Ben, en l'interviewant. Sur ce projet.
D'accord, mais comment vous êtes venu à l'interview?
Ben parce qu'il y avait, bon voilà, c'était quelqu'un qui travaillait à Universal à l'époque, voilà, et qui voulait sortir une compilation Melody Nelson. Et Averty avait réalisé le clip de Melody Nelson. D'accord. Et Averty était un ami, alors c'était pas un grand ami de Gainsbourg, mais c'était un ami de Gainsbourg. Donc voilà, et puis me voit-il pas que, voilà, donc on fait une maquette, on l'interviewe dans une... C'est une petite boutique, chez un petit ferronnier, c'est dans une serrurerie, parce que le père d'Averty était un quincailler. On s'est dit, on va l'interviewer là. Moi, j'étais fan, comme ça, quand j'étais, j'étais, pour moi, c'était un honneur d'interviewer Averti, parce que moi, je travaille dans les effets spéciaux et le trucage,
ah, voilà.
Et je suis...
Donc, vous étiez déjà dans les effets spéciaux, ce qui explique ça.
Ouais. Et donc, voir Averti, c'était un peu comme... Je vais blasphémer, mais c'est un peu comme si je voyais le bon Dieu. Hein. C'était pour moi, le bon Dieu, je parle d'un bon Dieu.
J'en regarde un excellent souvenir.
Et donc, et puis j'ai trouvé un homme charmant parce qu'on m'avait dit il est dur, parce qu'il avait des colères incroyables, il est dur, voilà. Et puis donc moi, ce que je vous dis, parce que vous m'avez dit que je suis un spécialiste, il y a des vrais spécialistes d'Averti. Moi, je suis un fan, je suis avant tout voilà. Comme, voilà, je suis un fan d'Averti, mais je suis pas, voilà. Il y a eu des grands spécialistes, des gens, on pourra les citer, comme Anne-Marie Duguay, tout ça, qui sont des gens qui ont vraiment, fait des livres sur Averti et tout ça. Bon, après, je vais continuer. Donc, on fait cette interview et d'ailleurs je découvre une chose parce que je lui dis je suis arrivé au trucage grâce à vous quoi. Et puis alors donc moi je lui parle de technique. Il me dit mais moi la technique je connais pas du tout, ça ne m'intéresse pas. L'électronique ça n'intéresse pas parce qu'il avait Max de Brenne qui était son technicien voilà, mais lui il avait les idées et il y avait des techniciens pour qui m'a dit qu'il était meilleur que moi, qui était plus talentueux de moi, qui même m'apportait des trucs, mais moi je concevais et c'était les techniciens qui fabriquaient quoi. Donc lui il avait bien, donc bon voilà, donc j'ai été ravi de le rencontrer et petit à petit voilà, donc je me suis mis à m'intéresser à l'œuvre d'Averti que je connaissais vraiment très très partiellement.
Mais vous l'avez vu œuvrer?
Œuvrer, non, je l'ai pas vu œuvrer.
Ces trucages.
Non, je l'ai pas vu. Il était vieux, hein, déjà. Ça devait être 2-3 ans. Alors, j'ai plus les dates exactes, hein, mais ça devait être 3-4 ans avant sa mort. Hein.
Ah, d'accord, ok.
Non, déjà, il était âgé. Non, je l'ai pas vu œuvrer, malheureusement. Mais, voilà. Et après, j'étais chez lui, j'étais le voir. On allait chez lui, on rentrait comme dans un moulin. Hein. C'était le pauvre, il était assez seul. Un peu, mais il était intéressant parce qu'on pouvait avoir des conversations. Autant il était vieux, hein, et puis comme il a mené une vie assez dure, hein, parce que lui-même il disait moi j'arrêtais pas de courir, c'était un homme très très énergique. Et donc il avait son corps il avait des problèmes dus à l'âge, hein, comme tout le monde, mais son cerveau était le cerveau d'un jeune homme. C'est-à-dire intact.
C'est-à-dire ses souvenirs étaient là.
Tous ses souvenirs étaient là. On pouvait parler de tout parce qu'il avait une culture. C'était une encyclopédie.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il avait en vieillissant, est-ce qu'il avait encore des projets?
Non.
Malgré qu'il n'était plus à la télé.
Ou alors non, je ne crois pas qu'il avait.
Maintenant, je ferai comme ça.
Non. Je crois qu'il avait.
On l'a écarté en fait.
Oui, on l'a écarté. Oui. Bah, comme je vous disais là, avant de faire cette émission, il a eu une très belle phrase. Il dit maintenant, mon avenir est derrière moi. il avait le sens de la formule. Hein, c'était. Ouais. Il était très. C'était quelqu'un, je dirais pas. Il plaisait, quoi. Hein. Quand on parlait avec lui, on était fascinés, hein, parce qu'il avait le sens de la formule. Il était charmant. Hein,
Ouais, parce que quand on voit des émissions d'Averti, on en retrouve sur le net. Hein.
Ah, bah, il y a Alina.
Sur YouTube. Hein, ouais. Et on retrouve des émissions d'Averti. Pendant qu'il travaillait, comme il faisait ses trucages, avec les chanteurs de l'époque. C'était quand même assez rigoureux quand même. Et puis il aimait bien tout ce qui était géométrique.
Oui. Alors
ses décors aussi.
Lui, ce qu'il aimait bien. Moi, je me rappelle parce que j'étais arrivé, j'avais acheté. Je ne vais pas citer la marque. J'avais une espèce de blouson d'aviateur que j'ai acheté dans ces grandes surfaces là de sport. Et alors il y avait plein de logos dans mon blouson. Il y avait plein de trucs, des encres, des machins. Ah, vous avez plein de logos. J'adore ça. J'adore parce que son idéal, lui, c'est Jarry. Et Jarry, c'est les
Père Ubu, quoi.
C'est le Père Ubu, et c'est une.
C'est le surréalisme.
C'est le début. C'est lui qui va. C'est Jarry qui va insuffler ça.
Dans le monde littéraire, dans le monde de la peinture,
C'est-à-dire tous les surréalistes et les d'abord les futuristes, après les dadaïstes et après les surréalistes vont admirer Jarry. Jarry, c'est la grande référence. Et c'est la grande référence d'Averti. C'est-à-dire que toute son œuvre, c'est-à-dire picturale, qui est fabriqué un peu comme une bande dessinée où tout est découpé,
voilà, c'est
où
ça.
Tout est mis sous forme de blason, où les acteurs sont comme des pièces de dessin graphique, et les acteurs jouent comme des mannequins mécaniques. Mmh. Ça, c'est Jarry. Et parce qu'au début, Jarry, c'était une pièce de théâtre de marionnettes. Donc
on comprend.
On comprend. Pourquoi et les premières émissions, des premières émissions de d'Averti, ce sera une émission de marionnettes. Donc lui,
de marionnettes.
Voilà. Et il dira que même il traite lui les acteurs parce qu'il a eu quelques problèmes avec les acteurs. Les acteurs, c'est qu'un signe. C'est lui, il cherche pas.
Alors, qu'est-ce qu'il disait sur les acteurs?
Alors les acteurs, lui, il dit, il faut pas qu'ils m'embêtent. C'est un signe comme un autre. C'est une tâche. C'est une tâche dans le décor.
Ah c'est oui, une tache dans le décor.
Oui. C'est une tache de couleur, quand il y a de la couleur, c'est voilà. Et donc, il faut que
alors
ça soit un élément.
Il était très noir et blanc.
Oui, alors quand il y avait la couleur, mais quand il était noir et blanc, c'était parce que Ubu, il le fait en noir et blanc. Ouais. Et les acteurs, alors, il pousse un peu, hein, parce que voilà, il aime la provo. Donc il a ce côté-là. C'est chez Averti, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qu'il dit peut être contredit. Bon, je pense qu'il aime les acteurs, hein, ça je crois pas du tout, mais en fait, lui, comme il a son manifeste de graphique, c'est Ubu Roy, et donc il est dans ce truc que les acteurs doivent être comme des marionnettes.
D'accord.
Voilà. Donc, Bon, après, je continue, donc voilà. Et donc, moi, je commence à avoir un petit projet, tout ça. Puis
avec
moi,
avec lui?
Non, j'ai pas de projet avec lui. Je rencontre, parce que je travaillais souvent avec Mireille Dumas, j'en parle à Mireille Dumas, je parle de ma rencontre, et elle me dit, mais ça serait bien qu'on fasse un film sur Averti. Et
Et c'était, déjà Averti ne travaillez plus là.
Oui, non, je vous dis, c'est vraiment quelques années. On va faire un truc, on va faire un film, on va faire un documentaire, c'est une super idée, faisons quelque chose. Et donc, je vais le voir, je vais le retrouver, parce que moi j'avais perdu son contact, elle retrouve son contact et tout, je vais le voir. Et puis le problème d'Averti, c'est qu'on ne pouvait pas couper ses émissions, il refusait, donc c'est pour ça qu'il n'y avait eu rien sur lui. Parce qu'il refusait qu'on... Autant c'était un maître du collage, il ne voulait pas qu'on fasse du collage avec ses émissions. Et voilà, je vous dis tout...
C'était contradictoire,
tout,
en fait.
Oui, ah ben, il est complètement contradictoire. Mais... Donc il dit, vous n'allez pas découper mes trucs, tout ça.
Puis bon, alors, c'est-à-dire, si on faisait une émission sur lui, il fallait que ce soit en entier, quoi.
Quoi, voilà, il fallait prendre...
Un début, une fin.
Si on prenait... parce que nous, on voulait faire une émission de... Parce que Mireille Dumas avait cette case, je crois que c'est le vendredi soir, qui était une case de prime time, comme il disait, parce qu'il n'aimait pas le prime time. Il appelait ça le prime time.
Prime time.
Et donc, il fallait prendre, tous ces. Alors, il n'aimait pas ce mot, mais tous ces clips, voilà, et toutes ces émissions musicales, mais on ne peut pas prendre le morceau en entier, c'est pas possible. Il faut qu'on prenne à chaque fois les meilleurs moments du morceau. Donc, et Mireille me dit, mais non, c'est absolument pas possible de faire ça. Bon,
je fais une émission quand même sur
lui.
Oui,
oui. Alors, je vais le voir et je lui dis, mais il faut qu'on fasse. Jean-Christophe, ça serait bien qu'on fasse quelque chose sur vous parce que les Français vous connaissent plus. Moi, ma génération vous connaît, vous étiez.
Moi quand vous m'avez parlé de Jean-Christophe Averti, tout de suite, moi, ça n'a pas attité. Je sais qui c'est, quoi. Parce que moi, c'est ma jeunesse, en fait. Mais maintenant, est-ce qu'il n'est pas un peu oublié?
Et voilà. Je pense que toute la génération qui est née après les années 70, même les années 70, il est oublié. Hein,
Celui, il a c'est 60.
Hein. C'est 60, ça démarre en 50. Il va jusqu'en 80. Lui, il dit que sa carrière s'arrête dans les années 80. Ce qu'on s'était raconté, c'est que il est dans sa. Alors là, c'est ce qu'il me raconte dans son interview. Dans son interview, sa première interview qu'il me donne, il me dit j'ai une maison en Bretagne. Ah, ça, il adore, il invente. Hein, ça, peut-être, c'est.
C'est le roi Ubu, quoi.
Ouais, c'est le roi Ubu. On l'appelait le père Ubu sur les tournages. Il aimait bien s'appeler le père Ubu. J'ai une maison en Bretagne, d'une armoire à glace, le diable est sorti.
Ah, le diable.
Et il m'a donné 30 ans.
On parle du diable. Donc, tout ça vient d'un pacte que j'avais fini avec le diable en 1946.
Ouais.
Sur en 1946, le diable est sorti d'une armoire à glace d'une maison où l'on jouait encore propriétaire, qui était en Bretagne. Et nous avons échangé notre sang et il m'en a donné pour 30 ans.
Voilà. Et voilà. Et il dit, faites le compte. Voilà.
Faites le compte, donc il a fait 30 ans de télé, en fait.
Voilà.
Ah, c'est ça.
Voilà. Voilà.
J'ai commencé à perdre un peu de la gloriole que je m'étais attribuée peut-être impunément.
Ouais.
Il croyait en lui.
Ouais, il croyait en lui. Mais il a eu... Alors, à la fin, il avait ce regard sur lui-même où il a vu qu'il a été un peu ubuesque, quoi, qu'il a été un peu le roi Ubu et tout ça. C'est ce qui le rend très sympathique. Hein. Il a un regard un peu nostalgique sur lui-même et un peu humble, moi, j'ai trouvé. Voilà.
Ouais. Alors, il y a une chanson, non ? C'est « J'ai vendu mon âme au diable ».
Oui, bah, c'est une chanson du musical. Voilà, et c'est dans ces parce qu'il y a des compilations de CD qui traînent sur le net et tout ça, et voilà, j'avais trouvé cette parce qu'il c'était un fan de musical, alors donc
et puis de musique
et de musique en général, mais de musical, il aimait. En fait, lui, son truc, c'est l'entre-deux-guerres. Si vous voulez, sa période, on va en parler.
On va écouter un extrait de J'ai vendu mon âme au diable.
J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Mais mon cœur, depuis des jours, pour un gars se meurt d'amour. Un jour passant dans la campagne, vers moi pensif, il est arrivé. Des yeux à faire abattre les montagnes, des épaules qui vous font rêver. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois le passionnant Philippe Rouget qui connaît très bien Christophe Averty. Si, quand même.
Ouais.
Hein, donc thème de l'émission, Jean-Christophe Averty. Donc alors, Jean-Christophe Averty, je parlais un peu de sa formation. Alors après des études à l'école alsacienne, il a dû bien aimer.
il a trouvé, alors dans le livre de Siglier, il trouvait que l'école alsacienne était une école de bourgeois.
C'était
pas pour lui.
Alors, ouais. Après, voilà. Il a été
un ghetto bourgeois.
Ouais, un ghetto au lycée Montaigne et au lycée Louis-le-Grand. Jean-Christophe Averty est reçu à l'école nationale de la France d'outre-mer, mais il y renonce pour faire des études de droit, de lettres, d'anglais et de philologie. Il intègre l'Institut des hautes études cinématographiques IDEC de la promotion 48-50, 1948-1950, dont il ressort diplômé. Il travaille comme banc-titreur au studio. Donc vous devez savoir ce que c'est, soit banc-titreur.
Oui, banc-titreur, c'est bah vous savez, vous avez une caméra qui est à la verticale,
ouais.
et vous faites et vous amenez des dessins en dessous, c'est pour des génériques et des choses comme ça. Voilà, c'est des bons titres.
Okay.
Ça, je voilà.
Alors bon titreur au studio Walt Disney à Burbank dans les
années... il a travaillé aux États-Unis,
en Afrique du Sud, ça.
Non, je crois qu'il a travaillé chez Disney. Il a eu une petite période chez Disney aux États-Unis.
Ouais. Burbank, c'est ça. Ouais. Dans les années 1950, avant de débuter à la télévision française. Alors à l'époque, ça s'appelait la Radiodiffusion Télévision Française, la RTF, où il entre le 16 novembre 1952 comme assistant de René Lucot.
Ça, voilà. Alors, bon, ça, après, je n'ai pas de.
Les gens de l'époque. Il vous a expliqué son parcours
lui. Non. Il n'était pas. Moi, j'ai pas eu.
Il est devenu réalisateur en 1956.
Voilà, ouais.
Donc, il a commencé les réalisations en 1956 et il a commencé vraiment à se démarquer des autres dans les années 60.
Oui, parce que je pense que ça met. Alors, après, sur ses débuts, je pense que ça met. C'est-à-dire que quand on avait. À l'époque, quand on avait un diplôme de l'IDEC, on était assez rapidement réalisateur. Et au départ, il a réalisé, je pense qu'il réalisait des directs, il a réalisé des... je pense qu'il a été assistant. Alors, je sais pas exactement... il a été assistant. J'ai un trou, mais voilà, d'un réalisateur un peu connu. Et après, il a fait des directs. Il a fait le jour du Seigneur. Ça, il m'en parlait.
Le jour du Seigneur.
C'est pas le jour du Seigneur, mais voilà, c'est des messes. Il filmait des messes.
Il filmait des messes.
Mais ça,
C'est bon.
Ça, c'est son début.
C'était ses débuts, ça.
Ouais, ses débuts. Ce qu'il appelait ça, c'est un travail d'huissier. C'est-à-dire qu'il a fait du sport. Il y a 2500 émissions. Hein. C'est énorme.
2500 émissions. Il faisait du direct, lui.
Et alors, il faisait du direct. Alors, le direct qu'il faisait, c'est... Alors, c'est compliqué. Le direct, généralement, ce qu'il faisait, c'est pour le jazz. Le direct, ça
alors,
il faisait...
c'était quand même un fanatique de jazz, surtout Nouvelle-Orléans.
Voilà.
La première période de jazz.
Voilà. Mais le reste, c'est à l'inverse du direct. Tout ce qui est pour ce qu'on dans ce qu'on en aime d'averti, c'est pas du direct. C'est au contraire, c'est tout est construit. Lui, par exemple, la pièce Ubu. En fait, tous les acteurs, il fait d'abord une bande son, et après tous les acteurs jouent sur la bande son pour que tout soit synchronisé.
Oui, d'accord. Mais alors, quand on voit ces images découpées.
Eh ben, c'est découpé sur une parce que lui, il lui faut comme si vous voulez, il lui faut comme un métronome.
Oui.
Donc, si pour que ça soit découpé, il faut que tout le monde soit synchrone. Donc, il faut qu'il y ait une bande son maîtresse.
D'accord, oui.
Donc, il demande à ses acteurs de jouer en off les scènes.
D'accord, OK.
Et après,
il met le son dessus.
Et après, pendant qu'il tourne, il diffuse le son et les acteurs font du playback.
Ah, donc, il y avait beaucoup de playback dans ces émissions.
Ah, mais énormément. Toutes les émissions, à part le jazz, où là, il tourne à Jean Lépin, ça, c'est du direct. Mais toutes ces émissions de variété, c'est du playback.
C'est-à-dire les chanteurs chantaient en playback?
Ah, tous. À lui, il dit, de toute façon, en direct, à la télévision, il n'y a que du mauvais son. Donc, tous étaient en playback.
D'accord.
Donc, voilà. Parce que, et en plus, sa technique imposait que ça soit du playback. Parce que la bande son était comme une maîtresse.
C'était la
ligne.
C'était la mémoire de.
C'est la ligne synchrone de toutes ces images. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes en trucage, il faut que vous ayez une. Comme quand vous faites des clips, si vous voulez, le son est le maître, la musique est la maîtresse. Et après, vous allez synchroniser toutes vos images que vous mettez en pièces détachées.
La question, c'est comment il fait? Quel est le procédé?
Alors,
parce que c'est ça
départ,
qui est intéressant. Moi, j'aurais bien voulu le voir faire.
Au départ, alors c'est son grand ingénieur, c'est Max de Brenne. Mais au départ, lui, sa technique ne peut arriver avec ce qu'on appelle l'ampex, avec les premiers magnétoscopes. Parce qu'autrement, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas de magnétoscope, ça ne peut pas marcher. Avant, c'était du direct.
Oui, mais dans les années 60, il n'y a pas de magnétoscope, si?
Si, ça commence.
Ça commence oui. Dans les années 60.
60, oui. Il y a déjà, ça commence.
Donc, il a commencé après la nouvelle technologie.
Mais oui, oui.
De cette nouvelle technologie, il a ressorti quelque chose.
Voilà.
Il a eu l'idée de réaliser des émissions complètement nouvelles, quoi.
Oui, pour lui, c'était...
Par rapport à ce qui était offert sur le marché, quoi.
Voilà. Et lui était en avance par rapport à cette technologie. C'est pour ça que d'ailleurs il va travailler aux États-Unis. C'est le seul réalisateur français de télévision qui travaillera aux États-Unis. Après, il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais donc lui, il va être en avance parce qu'il va considérer que la télévision n'est pas un moyen de diffusion. C'est pas un moyen de diffuser des films ou de diffuser des pièces de théâtre. C'est un objet de création. C'est un pinceau.
Alors, à l'époque, des émissions créatives très intéressantes, il y en avait... Bon, il y avait Jean-Christophe Averty, bien sûr.
Oui.
Mais il y avait, après, il y a eu les 5 colonnes à la une, il y a eu Dossier d'écran, c'est autre chose encore.
Il fait des 5 colonnes à la une.
C'était des émissions intéressantes. Hein.
Alors, c'est ce qui est marrant, parce que ça, j'ai découvert... Il fait des 5 colonnes à la une. Il réalise des 5 colonnes qui sont très noires. Il en réalise sur Malcolm X. Alors il y en a une qui est incroyable, c'est une interview de Malcolm X qui explique qu'il y a un avion, je ne sais plus de quel état, qui est tombé en France et tout ça. Voilà, je ne sais pas si on peut... Mais voilà, il dit, bon ben voilà, c'est que des blancs esclavagistes, moi, ouais. Franchement, ça ne me dérange pas. Il fait un truc sur le... Alors, c'est des sujets assez lourds qu'il traite, c'est ça qui est incroyable. Il fait un sujet sur le racisme en Angleterre. Il va faire après des sujets. Alors c'est pas un colonel à une, mais il va faire des sujets sur les petits vieux, tout ça. Il va faire un sujet à côté de chez moi là, de Conflans là sur les péniches et tout ça. Donc c'est qu'il va toucher un peu à tout. Hein. C'est ça qui est assez incroyable chez lui. On est aussi bien dans le rêve et dans la fantasmagorie, tout ça, que dans la réalité noire et brute. C'est
l'art brut.
Non, l'art brut, c'est autre chose. Non, mais dans le réel, si ouais, vous voulez, dans le Saint-Colonel à la
Lune. C'est un homme de contraste, en fait.
C'est un homme de contraste. C'est ce qui fait le. Moi,
il est. Ce que je comprends, donc, il restait pas sur le même chemin, quoi.
Non.
Il avait un chemin, mais après, il passait à gauche,
Il pouvait passer à droite. Alors, Saint-Colonel à la Lune, il n'a pas fait beaucoup. Hein. Lui, c'est vraiment son grand truc. Hein. C'est vraiment son grand dada, si on peut dire, c'est le trucage, c'est ses fictions, c'est ses mises en scène à la télévision, c'est ses collages. Ça c'est sa grande œuvre. Hein. Ça on peut pas dire Saint-Colonne à la Lune. C'est vraiment très très épisodique. C'est au début d'ailleurs. Je crois qu'après il en fait plus. Voilà. Non, ça c'est, on peut pas. Mais son grand truc, c'est la télévision comme objet créatif.
Il considérait la télévision comme un objet de création.
Ouais, comme un objet de création.
De son quand lui il réalisait. Mais qu'est-ce qu'il pensait des autres émissions?
Alors, il bon, était après, il était assez critique là. Il pouvait être assez critique de tout le monde. Hein. Il était assez voilà. Mais lui. Mais
parce que lui, il se sentait comme un novateur.
Il se sentait comme un novateur et il avait, si vous voulez, parce que s'il faut revenir à son ubu et ça, parce que un de ses grands maîtres aussi, c'est Filippo Marinetti, c'est le futurisme. Le futurisme, par exemple, avait aussi cette idée de, parce que le futurisme était dans la technologie, le futurisme avait appelé la radio, la télévision avait appelé ça la radia. Donc, mais c'était pas du tout péjoratif. C'était d'expliquer que ça, pour les futuristes, c'était un nouveau moyen d'expression. Et Averti a récupéré cette idée-là et il dit, mais la télévision, c'est un moyen d'expression.
C'est un moyen d'expression.
Voilà, ce n'est pas... et ça ne doit pas être un moyen...
C'est pas une finalité en soi, en fait.
Non, voilà, c'est pas une finalité. C'est comme, je sais pas, un pinceau ou un instrument de musique. C'est un moyen d'expression. Et donc, il théorise tout ça en disant, ah ben moi, la télévision, c'est pas le cinéma. La télévision doit pouvoir être regardée sur une montre. Là, il est modèle.
Sur une montre.
Sur une montre, oui. C'est-à-dire
on doit l'avoir tout le temps.
Non, alors pas tout le temps, mais ça doit être petit. En fait, ça peut être petit et c'est une image petite.
Ah, donc, il disait ça en quelle année, ça?
Ah, ça, je sais pas. Dans les années 60, 70, peut-être. Mais
parce
dès le début.
Ça existe. Ça,
oui, mais
maintenant,
dès le début.
Existe, hein.
Il le dit dès le début. Dès 60, il dit la télévision, il faut frapper le téléspectateur chez lui. Ça doit être des images contrastes. Il dit, moi, ce que je vois à la télévision, je vois que des images grises. J'ai l'impression d'être dans un bocal de poisson rouge. Tout est fade.
Enfermé, quoi.
Voilà. Oui, mais tout est fade, tout est mélangé, tout ça. Tandis que moi, je veux des contrastes.
Bon, c'était... Voilà. Là, il a pas loupé. Hein.
Oui, je veux donner une claque aux téléspectateurs. Je veux des noirs, je veux des blancs, je veux...
Oui, mais tout... Après, il y avait des images découpées, beaucoup d'images découpées.
Oui, mais ça, c'est... Voilà.
Après, vu du haut... Les danseurs.
Voilà, oui, oui.
À l'époque, il y avait des groupes de danseurs.
Voilà, oui, oui.
Donc, c'était beaucoup filmé vu du haut. Il y avait des chanteurs, on voit leur visage. Après, le visage est découpé en deux. Après, c'est le corps qui part à gauche, à droite. Enfin, c'est.
Voilà.
Ouais, c'est, oui.
Mais c'est le collage, hein. Lui, ouais. C'est donc ses maîtres.
Donc, il aimait bien le collage.
Ah, il aimait bien le collage, c'est ses maîtres. C'est ses maîtres. Les futuristes font du collage, n'arrêtent pas de faire ça. Il adore Prévert. Prévert faisait du collage tout le temps. Et lui adore son. Parce que c'est très construit ce que fait Averti. Et
oui, c'est très construit.
C'est très construit, hein, ça rigole pas du tout. Hein. Ouais.
Parce que nous, on a. Même lui, il rigolait pas. Hein.
Non.
Pendant qu'il faisait ses trucs, il faisait refaire. À un chanteur 10 fois la même scène ou
ça allait vite. Hein. Il me disait ouais, alors j'ai plus une émission d'une heure et demie, ça me dit 3 jours.
C'est pas mal quand même. Hein.
Ah pour la télé c'est.
C'est beaucoup.
Ah c'est rapide.
Ah c'est rapide.
Ah c'est rapide.
Ah pour la télé c'est rapide.
Ah oui c'est très rapide.
Parce que vous avez travaillé à la télé.
Oui. C'est très rapide.
Ouais.
C'est
ouais, très. Je connais pas.
C'est très rapide. Donc, tout le monde travaillait avec un rythme d'enfer. Et donc, il y avait des énormes colères et tout ça, parce qu'il mettait.
Pression.
Ah, une pression terrible.
Lui-même.
Lui-même, il se mettait une pression sur lui et sur les autres. Il y avait des colères incroyables. Hein. C'est dans le film que nous avons fait avec Mireille Dumas, qui le raconte très bien et tout ça. Et c'est Françoise Hardy qui le raconte, à chaque fois qu'elle était sur un plateau, ça criait dans tous les sens, quoi.
Françoise Hardy.
Oui, parce que Françoise Hardy a fait de. Il aimait beaucoup Françoise Hardy. Elle était très belle.
Il y a beaucoup de gens qui sont passés chez lui. Françoise Hardy, Johnny Hallyday.
Tout le monde est passé chez lui. Il m'a dit tout le monde est passé chez moi, sauf Sheila.
Sauf Sheila.
Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
D'accord.
Voilà. Je crois qu'il a eu tous les yéyés, tous les. Il a eu même les Beatles. Il a eu même des. Il a même filmé les Bee Gees et tout ça. Il a eu même la pop anglaise, il a eu des choses incroyables. Hein. Quand on voulait avoir une émission de télé un peu chic et un peu, on allait chez Averti. On n'allait pas ailleurs. Hein.
D'accord. Oui. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre journal des Beaux-Arts. C'est très passionnant, hein, Jean-Christophe Averti. Hein. Mmh. Moi, j'en garde des images que j'ai toujours dans la tête. Bon, j'ai regardé récemment des émissions pour me remettre un peu dans le bain, mais ce que j'ai vu, je les avais vues quand j'étais jeune et je m'en rappelle très bien. Mmh. En fait, parce que ça m'a marqué. Hein, comme par exemple, on en avait discuté, comme un film qui m'a énormément marqué quand j'avais quoi, 16 ans, peut-être 16, 17 ans, je ne me souviens plus trop. C'était Odyssée 2001 de l'espace.
Oui.
J'ai trouvé ça, pour l'époque, extraordinaire.
Oui,
en fait, Kubrick, il ne s'était pas trompé.
Oui.
Quelque part.
Oui, il ne s'est pas trompé.
Sauf qu'on n'est pas encore dans l'espace
voilà.
Avec...
mais on est avec IA et tout ça. Non,
on a pas mis, mais on y vient, on n'a pas mis encore une station spatiale sur la Lune ou je ne sais où. Mais on y vient. Alors, chers auditeurs, je vais vous faire une annonce pour une galerie d'art qui se trouve à Pellevoisin. Ah, donc, Pellevoisin, c'est dans l'Indre, ça doit être à 30 km de Châteauroux. Et donc, il y a une galerie d'art là, à Pellevoisin, la galerie de Bérengère Violet. Et donc, c'est son père qui était photographe, qui a beaucoup travaillé sur Le Mans, sur les courses du Mans, qui a connu Steve McQueen, qui était un acteur très connu de l'époque. Steve McQueen, Au nom de la loi, l'affaire Thomas Crown, et j'en passe, les 7 mercenaires, et des meilleurs. Et puis donc, il était pilote et il a même gagné les 24 heures du Mans, Steve McQueen. Et son père, donc Jacques Violet, qui était né à Paris en 1936, donc il a étudié le dessin, l'histoire de l'art, aux arts appliqués céramiques, qui lui permet de fréquenter l'atelier de Picaud et à Valoris de croiser Picasso. Bon, il a entamé une carrière il était comme peintre, il a été photographe, il a fait beaucoup de photos, il a beaucoup travaillé en Afrique. Et donc cette galerie, chers auditeurs, je vous invite à vraiment y aller. À Pellevoisin, qui d'ailleurs, Pellevoisin est le deuxième pèlerinage en France, après Lourdes, je crois, parce qu'il y a eu des apparitions en 1876, une dame qui avait à l'époque une tuberculose, qui en 1876, ça se guérissait pas, hein, et qui a eu des apparitions, qui a été guérie, et ça a été reconnu par le Vatican en 2024 ou 2025, c'est pas si vieux que ça. Et donc il y a beaucoup de pèlerinages, et il y a cette galerie qui est au centre-ville, et qui, j'y suis allé, qui vraiment mérite le détour d'y aller. C'est très intéressant à voir, et Bérangère Violet est très sympathique, elle vous recevra chaleureusement et vous expliquera toute la démarche de son père où elle expose ses photos. Voilà. Alors, la galerie Violet, donc, il y a un téléphone, c'est le 06 40 23 60 55. 06 40 23 60 55, et le mail, c'est berangère.galerieviolet tout attaché @gmail.com. Voilà. Donc revenons à
notre ami Averti.
Jean-Christophe Averti, pardon, parce que j'étais sur Alfred Jarry. Il ouais. Y a tellement à dire.
Ah oui, c'est énorme.
Parce qu'il était aussi un disciple d'Orson Welles. Hein.
Oui, bah, Orson Welles fera. Oui, alors Orson Welles, il m'a dit. Bah, voilà, c'est un très bon exemple. Par exemple, il dit Orson Welles, moi je l'ai vu 50 fois, ou je ne sais plus combien, quoi, c'est un nombre considérable, mais il me dit Orson Welles, c'est irregardable à la télé. Voilà, donc. Oui, parce que pour lui, la télé n'a pas de profondeur de champ, tout doit être à plat. Et donc, le cinéma n'est pas fait pour être projeté à la télé. Le cinéma est fait pour être projeté dans un cinéma.
Et à cause de l'écran, déjà.
À cause de l'écran.
Parce que l'écran est immense.
Voilà, l'écran est immense. Donc, lui, donc.
Ça aussi, c'est contradictoire. Bon, c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Quand on voit un film au cinéma, on voit le même film sur un écran de télé, c'est pas du tout pareil. Mais il disait, la télé doit se regarder sur une montre. Vous voyez, donc on passe du cinéma, le cinéma qu'on connaît, et puis après la télé, film, on doit le regarder sur une montre.
Non, pas de film sur montre, pas de cinéma sur montre.
Alors c'est
que,
quoi
que des jeux comme ça, graphiques.
Ce qu'il y a maintenant, quoi, en fait. Sur des téléphones portables.
Oui, mais des jeux graphiques, si vous voulez. À la rigueur, on ne pourrait regarder que des clips. Oui, ce qui est un peu maintenant. Vous avez complètement raison.
Parce qu'un téléphone portable, c'est quand même pas grand. Hein.
Oui, c'est pas grand. Mais ce serait. En fait, on regarde que ce qu'on appelle. Alors, je sais pas si sur Radio Courtoisie, je peux sortir, parce que moi, je donne des cours là-dessus. Sur du motion design. Ce qu'on appelle ça, c'est du design animé, si vous voulez. Et parce que l'ancêtre de ça, c'est Averti. Et voilà. Mais on regarde pas de film sur un écran de portable ou sur une télé. On doit regarder que des jeux graphiques tels qu'il les faisait, lui.
D'accord.
Lui, il fallait des émissions très particulières qui doivent être adaptées à la télévision. Mais on ne mettait pas de cinéma.
Et quand il faisait ses émissions, il était très rigoureux, hein, quand même.
Ah, c'était... Si vous voulez,
ça rigolait pas, quoi.
Ah non, ça rigolait pas. Et il considérait, parce qu'il aimait beaucoup les mathématiques, parce que pour lui, il y avait une poésie dans les mathématiques, mais ça, c'est aussi une idée...
C'est pas faux.
C'est une idée aussi futuriste et tout ça, et que pour lui, la musique, c'est des mathématiques.
Ah bah la musique, c'est des mathématiques.
Bien sûr, oui. Et donc, c'est ces mathématiques qui sont... Elles sont maîtres de tout, et c'est elles qui vont amener...
Une partition...
Voilà, une partition, c'est mathématique.
Une partition mathématique,
Et son montage va se coller à cette mathématique.
D'accord.
Et cette mathématique qui impose un cadre très, très sévère, par ses contraintes, je vais pouvoir exprimer mon art.
Solzhenitsyn, l'écrivain russe qui a fait l'archipel du Goulag...
Oui.
Était mathématicien quand même.
Ben oui.
Et ça l'a pas empêché d'être écrivain et philosophe.
Oui.
L'un n'empêche pas l'autre.
Oui.
Et il faut pas. Mais en France, parfois, on met des gens dans des cases. Quoi.
Ouais.
Il a fait ci, il peut pas faire autre chose.
Ouais.
C'est pas tout le temps, mais on entend parfois ce discours.
Mais eux, c'est l'inverse. C'est-à-dire tous ces gens-là, quoi.
Des gens qui vont de l'avant.
Ils pensaient que la contrainte n'était pas, au contraire, un frein, mais que la contrainte pouvait amener une œuvre extrêmement créative. C'est un peu compliqué à comprendre. Hein.
Non.
Pour les gens, il se mettait énormément de contraintes et il se dit, à travers cette contrainte-là, je vais faire quelque chose de très très créatif. Et pour lui, les mathématiques, c'était très important, et il aimait la musique, il jouait. Hein. Il disait qu'il était un piètre joueur, mais je l'ai écouté dans des rushs, il jouait plutôt bien. C'était un pianiste, il jouait, pendant les prises. Il jouait quand il allait pour passer ses nerfs, ou je sais pas, mais pour se détendre un peu, il jouait pendant les prises. Donc on le voit en train de jouer avec le. Il faisait par exemple une prise d'un grand jazzman, et puis il se mettait au piano, il y a le jazzman qui le regarde, qui se marre, et tout ça. Pour lui, ça l'amusait beaucoup. Ouais. Il disait qu'il était
déjà,
un mauvais.
Il essayait, quoi. Enfin,
il disait, je suis un mauvais musicien, mais voilà, ça voilà, oh. C'est pas.
C'est... Mais sans... Qu'est-ce que c'est un pianiste, quelqu'un qui joue du piano.
Voilà.
Alors, on pourrait dire ça.
Voilà. Mais pour lui, la musique c'était fondamental. Moi, d'ailleurs, j'ai fait l'erreur parce que nous, on a dans la vidéo, on marche beaucoup parce que moi, je suis un ancien monteur, on marche beaucoup avec les time codes. Alors, vous avez une bande. Alors, vous n'avez pas une bande musicale. Vous avez une bande une horloge. Vous avez votre bande magnétique et il y a une piste qui
Vous le voyez, ça ?
Alors, oui, on le voit. C'est-à-dire qu'on a un time code qui se défile et on dit à telle minute, tu coupes le plan. Voilà, on a.
Ah, ça, c'est.
C'est la technique moderne. Ça fait depuis longtemps que ça existe. Mais à son époque, il n'y a pas. Quoi, je ne sais pas où. En tout cas, lui, il ne les a pas vus. Et je lui dis, mais alors. Jean Gressot, vous montiez, vous mettez la musique au time code. Que vous me parlez de time code. J'ai pas de time code. Moi, j'ai la musique. Voilà. C'est ça qui est mon fil rouge, mon maître.
Donc, c'était un jazzman convaincu. Comme j'ai dit tout à la première période. Et après, il considérait le jazz comment? Parce que, bon, il y a eu plusieurs périodes de jazz.
À lui, c'est le jazz du début. C'est le jazz qui swing.
Nouvelle-Orléans.
Voilà. Nouvelle-Orléans. C'est le jazz qui swing. Après, déjà, il trouve. Bon, le rock, on n'en parle pas. Et c'est des mouvements artistiques, mais lui, c'est le jazz du tout début. Hein, il y a un morceau qui découvre pendant la guerre en écoutant Radio Londres et tout ça, et c'est ça qui va provoquer chez lui une sorte de flash. Je sais pas comment
on pourrait dire. C'est quel morceau ?
Alors, attendez, je. Ouais. C'est.
Non, mais c'est pas.
Hein ?
C'est pas rien.
Oui. Je l'ai plus de tête. C'est un morceau de parce que c'est un truc assez.
Oui. Mais ça fait rien.
Je vais le retrouver. Si vous le passez après, je vous redonnerai le titre.
Et donc, il a produit plus d'un millier, d'émissions pour la télévision et près du double pour la radio. Donc, il a beaucoup travaillé à la radio aussi.
Oui, alors c'est vers la fin de sa vie. Il travaille à la radio.
Il n'a pas commencé au début.
Non, il ne commence pas par la radio.
Ouais, il commence pas dès le début.
Non, il commence pas parce que
Alors, chers auditeurs, j'ai un message. Je viens de recevoir un message. Alors, je le découvre comme vous. Hein. Voilà, bonjour. La télévision de l'époque d'Averty était en gris et l'œil ne distingue difficilement qu'au mieux 32 nuances de gris sans mauvaise allusion. S'il est inspiré du mouvement Hop Art dans cette recherche du choc par un contraste marqué, s'est-il inspiré du mouvement Hop Art
Pop Art.
Ou alors c'est Pop Art, alors peut-être.
Ouais.
Dans cette recherche du choc par un contraste marqué.
Ouais. Alors, ça, c'est sur le Pop Art, parce que ça, on en avait parlé, à un moment, je lui parle du Pop Art, parce que. Sur Gainsbourg, il y avait des choses assez pop art. Ouais, j'avais trouvé qu'il avait fait quelque chose qui était. Il me dit. Oui, mais il était très. Il me dit je déteste le pop art. Moi, tout ce qu'a mis à Andy Warhol, je l'ai jeté.
Ah, et en Andy même Warhol, temps, il n'aime pas.
Oui. Non, mais il était. Bon, voilà.
Bon,
il n'aimait pas trop. Voilà. Et en même temps, c'est ça toujours qui est très compliqué avec Jean-Christophe Averty.
C'est des contrastes.
Il y a des contrastes.
Incroyable. Il faut le suivre.
Sa plus belle émission, moi, qui n'est pas connue, qui est Heidi. Qui est une émission allemande qui va tourner en Belgique. C'est une émission par excellence pop art. C'est Guy Pellart qui est le graphiste, qui est un type assez génial parce qu'il a fait les pochettes de David Bowie et tout ça. C'est un graphiste assez incroyable. Et il fait des émissions les pop art mais magnifiques. Moi, je peux la regarder. Plusieurs fois en boucle.
Ça s'appelle comment, Zalim ?
Ça s'appelle Heidi. On le trouve sur le. On fait Heidi en anglais. Alors, pardonnez mon anglais, c'est I-D-E-A. Et vous faites Averty. Il y a les Bee Gees. Il y a Julie Driscoll. Et il y a des moments psychédéliques. Parce que Julie Driscoll fait une espèce de pop. De musique psychédélique. Avec Brian Auger, qui sont des voilà, qui sont ils sont très bons, hein, c'est des Anglais et tout ça. C'est c'est une très bonne musique. Et Averty fait un truc génial là-dedans, qui est complètement moderne, qui n'est pas connu. Hein. C'est vraiment pas connu.
Il y a un morceau là. Voilà. Session, bon, c'est en anglais. Off the Witch, Julie Driscoll.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
On va le passer. Ça a un rapport avec cette émission-là. Heidi.
C'est Heidi. Ce morceau est dans Heidi. Et c'est un morceau particulièrement magique là-dedans.
Eh ben, on va écouter un extrait.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Julie Driscoll.
Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, je reçois Philippe Rouget, très passionnant. Très passionnant, il connaît vraiment très bien son sujet, hein, y a pas de problème. Et donc, le thème de l'émission, c'est Jean-Christophe Averty. Donc, après, je disais tout à l'heure, en fait, près du double. Alors, il a fait plus d'un millier d'émissions de télévision et près du double pour la radio sur le jazz, le sport, le cirque, la mode, les variétés, sur le théâtre, l'armature, la littérature, émissions qu'il adaptera et mettra en page lui-même avec l'aide de son équipe. Donc, ils font sa réputation sur son caractère trempé,
Ah oui.
Son goût de la provocation et son sens de l'innovation télévisuelle. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il a commencé par la télévision, il a fini par la radio. Et c'est pas souvent c'est l'inverse qui se passe, non?
Oui, mais
en fait,
alors
ses premières armes sur la radio, je sais pas. Hein.
Après,
par
je sais pas.
De la télévision, je parle. Hein.
Ouais, ça, je pourrais pas dire. Je pense qu'il finit avec la radio parce que dans une de ces émissions là qui sont passées sur France Culture, j'avais écouté. Il raconte qu'il finit à la radio parce que, ben, en fait, il a plus de boulot à la télévision. Donc, France Culture.
C'est incroyable qu'on l'ait quand même écarté comme ça.
Ouais, France Culture lui donne les cinglés du music hall. Alors, donc, il est resté 15 ans. Je crois qu'il est resté pas mal de temps au cinglés du music hall. Et donc, lui, comme il avait cette culture encyclopédique, parce que chez lui, c'était la caverne d'Ali Baba au niveau des disques, il avait détruit.
Dans sa maison?
Dans sa maison, oui. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais c'était dans les étages du haut, mais je n'y ai pas été. Mais il avait énormément de disques. Il allait au puce, il achetait énormément, énormément de disques. Donc il avait une énorme culture, mais sur toute cette tranche d'entre-deux-guerres. Lui, c'est vraiment, ça se situe de début du 19e, ça doit s'arrêter dans les années 30. Hein. Et donc, le music hall, il adore le music hall. Et donc là, il peut faire une émission. Alors, il parlait comme ça en zozotant, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il disait « à vos cassettes ». Et puis après, il a fait un débit de mots énorme parce qu'il avait plein de... Un peu comme... Alors, pas moi, mais comme nous.
Il avait envie de transmettre.
Il avait envie de transmettre. Il avait plein de choses à dire parce qu'il avait cette culture et tout ça. Donc, ça partait avec une vitesse énorme. C'était assez rigolo, quoi. Et il a eu toujours ce caractère très trempé, comme vous le dites. C'est, même quand il allait dans une émission de télévision où il faisait un bouillon de culture ou tout ça, il partait dans des colères, il criait contre le... Là, j'ai écouté dernièrement un truc...
Il se disputait avec des gens sur la scène.
Il y allait... Là, parce que c'était pendant la guerre du Golfe, il disait que c'était ce cinéma, ce spectacle de la guerre du Golfe, CNN, tout ça, puis il se met à crier presque, voilà, sur son indignation. Il sort un journal des années... pendant la guerre, et il dit, regardez, même pendant la guerre, les régimes étaient plus pudiques, les Anglais ne faisaient qu'un petit article sur les alors que le monde était en feu, à feu et à sang. Il dit, voilà, il critiquait, il expliquait que le monde n'avait pas de pudeur vis-à-vis de la guerre. Enfin, voilà. Ouais. Que le monde n'avait pas de pudeur vis-à-vis de la guerre. Mmh. Voilà. Donc, il a eu toujours, mais en même temps, il n'était pas très politisé. Hein, il n'avait pas de message, hors message graphique à donner. Il n'en avait pas spécialement de message particulier. Ce qu'il n'aimait pas, c'est les sondages. Ça, c'est, voilà. Il dira plusieurs fois, on ne sonde que les malades.
Bah, c'est un double sens.
Voilà.
C'est pas mal, ça.
C'est pas mal.
Très intéressant.
On ne sonde que les malades. Ouais. Et il disait, si on avait sondé Rimbaud à son époque qui avait vendu... si on avait sondé Van Gogh, Rimbaud avec Saison en Enfer qui a rien vendu, Van Gogh qui vendait pas un tableau, on n'aurait pas été très loin. Hein. Et il reprochait même, il disait, mais comment un chef d'État peut être sondé à longueur de temps, comment peut-il gouverner en étant sondé perpétuellement?
Alors, il dit, par rapport à ça, il disait, pour rebondir sur ces mots, il parlait de la vieillesse. La vieillesse, de toute manière, la vieillesse me fascine.
Oui.
C'est déjà bien de vieillir. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas à vieillir, qui ont des problèmes, qui décèdent avant. Tout ça. Bon, j'ai toujours été pour les vieillards, contre les jeunes, dans la mesure où les vieillards sont devant moi et ont vécu plus longtemps que moi. Les jeunes vous poussent. Alors, les jeunes vous poussent, les vieillards, on les pousse.
Ouais.
Ouais, c'était la dérision quand même. Hein.
Oui, c'est la dérision. Il a eu
toujours du côté des vieillards plutôt que des jeunes qui vous poussent quand on se moque d'un vieillard en disant il est vieux, il est vieux, il est vieux. Et ben le vieux vous emmerde parce que de toute manière il a vécu plus longtemps que vous. Vous n'êtes pas sûr d'en faire autant. Voilà.
Ouais.
C'est ce que je disais. Voilà. Et c'est Oui, il était franc du collier, quoi.
Oui,
franc. Ça rigolait pas, quoi.
Il rigolait parce que il dit là tous ces gens, parce que voilà.
C'était pas policé, quoi.
Ah non, pas du tout. Et il me disait d'ailleurs tous ces gens de la télé là qui ont été méchants avec moi, qui m'ont viré, tout ça, ils sont morts tous. J'ai tous survécu. C'est moi qui ai gagné. Oui, il était. Non, c'est pour ça, il était assez drôle. Et il avait fait aussi un film qui s'appelait La Cage aux Oiseaux où il avait fait. Alors, c'est pour ça qu'il a un double aspect, où il avait filmé comme ça des artistes qui avaient été des artistes ratés, si on peut dire, vieux, et qui faisaient des spectacles totalement désuets, hors du temps.
Dans les supermarchés, des trucs comme ça.
Non. C'était dans une rue à Barbès, une sorte d'association et tout ça. Le film est assez noir, hein. C'est franchement. Et lui, pour lui, c'était le côté absurde de la vie, le côté, il dit, parce que quand on est artiste, si on réussit pas, c'est dramatique.
C'est dramatique.
C'est ouais. dramatique.
Ah, je comprends, oui, bien sûr.
Ouais. Et lui, devant cette violence, il a filmé ça. Et vous voyez donc le double aspect du personnage. À la fois le côté féerique, le trucage et tout ça, et à la fois on plonge dans une réalité extrêmement dure. C'est et il a eu un personnage comme ça qui s'appelait Mademoiselle Petit, qui était une vieille dame aussi, pareil, artiste un peu loufoque et tout ça, qui mettait sur ses plateaux, qui décantait comme ça des phrases un peu loufoque, un peu surréaliste, qui l'aimait beaucoup. Mais il disait comme ça, moi j'attire tous les gens qui sont un peu à la marge, tous ces vieux, limite des gens qui étaient, je dirais pas des clochards, mais des gens abandonnés, quoi. Et pour lui, c'était c'était un regard sur la mort. Il avait cet humour noir sur la mort, sur les choses. C'était dans beaucoup de ses sketchs, hein, des raisins verts. C'est parce qu'on n'a pas parlé, mais sa grande émission,
ah, c'était les raisins verts. Ça, je me rappelle. Voilà. Quand j'étais jeune, je me rappelle bien. Les raisins verts, oui. C'était oui, déjà le raisin, c'est vert.
Ouais. Et c'est produit par Michel Arnaud.
Alors Michel Arnaud, c'est voilà. Madame Michel Arnaud, qui était une très grande réalisatrice, productrice. Ouais, hein. Ouais, son fils, je ne me souviens plus son nom, qui a écrit des chansons pour Johnny Hallyday, le fils de Michel Arnaud. J'ai son nom sous le bout de la langue, mais bon, ça me reviendra peut-être. Ouais. Si un auditeur ou une auditrice le sait, qu'il me le dise par message.
Ouais.
Donc, Michel Arnaud, oui, elle a œuvré, elle a fait des émissions extraordinaires. Des émissions extraordinaires.
Bah, Heidi, c'est elle. Les Pink Floyd à Pompéi, c'est elle.
Les Pink Floyd. Elle a produit les Pink Floyd.
Floyd à Pompéi.
Incroyable.
Pink Floyd à Pompéi.
C'est incroyable.
Et puis
on pourrait plus le faire maintenant, ça. Ouais. Je sais pas.
Non, mais en plus, quand on voit Michel Arnaud, parce que bon, je la connais pas bien, mais c'est une grande dame, très bourgeoise et tout ça. Et en même temps, dans toutes ces productions, il y a une originalité, il y a une modernité, mais incroyable.
Étaient inventifs. Hein,
oui, elle est intelligente. Tout ce qu'elle a touché.
Tous les gens qui œuvraient dans ce monde du spectacle étaient quand même très inventifs. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ah. Maintenant, je ne sais pas.
C'est un autre débat,
c'est un autre sujet. Hein.
Ouais.
On pourrait peut-être en parler un de ces jours.
c'était un vrai service public, quoi. Bon, un service public passionnant, et de gens extrêmement cultivés et qui étaient très, très éclectiques et très ouverts. Quoi, voilà.
Donc en fait, il disait aussi, je trouve très moral d'inquiéter ce monde de la consommation triomphante, de le rendre dérisoire par son contraire, la déchéance, le bide noir, le spectacle en perdition. J'ai toujours été fasciné par l'anti-spectacle dans son décadie, son échec confirmé dans sa vieillerie.
Ouais. Ça, c'est la cage aux oiseaux.
C'est la cage aux oiseaux, ça.
Ça, c'est vraiment la cage aux oiseaux. Ouais.
Est-ce que Pierre Perret s'est inspiré de ça pour faire son titre, sa chanson, la cage aux
oiseaux? Ah non, je ne sais pas. Alors, il l'a mis en scène, ça, la cage aux oiseaux, mais c'est quelque chose de plutôt rigolo. Il a fait... Alors, j'ai trouvé ça dans les rushs de Lina. Vous avez dans les rushs de Lina, mais pour le moment, j'ai pas trouvé la bande-son, parce qu'il y a des choses, j'ai trouvé, comme le morceau, si on passe, Dada, de Bernard Lévillier, je suis arrivé à resynchroniser avec le son, mais il y a une chanson de Pierre Perret qui est en rush, qui s'appelle Blanche.
D'accord.
Et donc, alors... Et en fait, elle est très belle, c'est une très belle, très jolie chanson de Pierre Perret,
c'est très bon. Hein.
C'est très joli, c'est une chanson très tendre et tout ça. Et donc, c'est tourné à la façon d'Averti, très sobre, fond blanc et tout ça. Et à la fin, on comprend que Blanche est sur une civière d'hôpital morte et il lui ferme les yeux. Voilà, c'est complètement macabre, hein, le truc. Voilà. Bon, ça, c'était un peu... Alors, ouais. Ça n'a jamais été diffusé. Je pense que ce truc n'a jamais été diffusé puisqu'il est en rush à l'INA.
D'accord.
Mais ça, c'est vraiment... Averti, il y avait une fascination sur la mort.
Mmh. Ouais.
Voilà.
Donc, moi, ce que j'aimerais...
Voilà.
On a parlé tout à l'heure de Gilbert Bécaud. Ce que j'aimerais, c'est écouter l'Orange de Gilbert Bécaud. Parce qu'en fait, j'ai vu le clip... d'Averti, qu'Averti a fait, hein,
ouais,
sur Gilbert Bécaud, et j'ai vu le clip extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Je l'ai regardé trois fois dessus.
Ouais.
Je me suis dit, c'est pas possible. Et on voit la tête de Gilbert Bécaud dans une partie d'Orange, après une partie du corps, après, ouais, l'Orange qui vient. Après... Incroyable.
Et un montage.
Alors un montage extraordinaire.
Extraordinaire, d'une rapidité.
Mais et puis alors Gilbert Bécaud, qu'on n'entend plus beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Donc, et un montage qui n'a pas pris une ride. Pas du tout. On peut le voir.
Très moderne. Il n'y a pas de problème. Ouais. On va écouter Laurent de Gilbert Bécaud, un petit passage.
Tu as volé, a volé, l'orange. Tu as volé, a volé, l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, l'orange. Tu as volé, a volé, l'orange du marchand.
Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. J'ai pas volé, l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait.
Non, 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 non.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues.
C'est fou, dit.
Oui, c'est bien toi qui l'as volé. Y'a quelqu'un qui t'a vu.
Je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne où l'oiseau pleure.
A volé, l'orange.
Mais non, mais non, non, non.
A volé,
c'est pas moi. J'ai pas volé, pas volé, l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, je prends un message qu'on vient de me donner. Pardon. Alors, je parlais bien du Hop Art, Optical Art, dont la figure marquante est Vasarely et non du Pop Art Warhol.
D'accord.
Chers auditeurs, merci à cet auditeur de nous avoir rectifié. Donc c'est de l'optical art dont la figure marquante est Vasarely. Donc Vasarely, il a travaillé...
Il a fait un film sur Vasarely.
Vasarely, peintre, qui était un très bon portraitiste, parce que moi j'ai vu des portraits des originaux de Vasarely. C'est un très très bon dessinateur. Après, il a fait les figures géométriques qu'on connaît, qui sont très très bien faites. Ouais. Alors, j'aime bien l'art géométrique, alors voilà.
Il y a un show avec Yves Montand qui est dans notre documentaire avec Mireille Dumas. C'est du Vasarely derrière.
C'est Vasarely.
C'est extraordinaire. Hein, cette réalisation.
Mais c'était dans les années 60, l'art géométrique était très en vogue.
Oui, mais tout ça.
C'est Charles Herbin qui était peintre. Il y a eu sa petite nièce ou sa nièce, je ne sais plus, qui était aussi. Peintre d'art abstrait.
Ouais.
Donc je continue sur le.
Pardon.
Le réalisateur des 5 colonnes à la lune, c'est Igor Barère.
Oui, voilà.
Igor Barère.
Ouais. Mais après, il y avait des chacun. Mais le. Qu'est-ce que je voulais dire, cet art cinétique, optique et tout ça, ça, c'est aussi l'influence des futuristes et des surréalistes, parce que Duchamp, avec ses rotoreliefs qui faisaient tourner et tout ça, donc Averti est complètement là-dedans, complètement.
Duchamp, la femme qui descend l'escalier.
L'escalier, voilà. Et on découpe l'image. C'est futuriste. On découpe l'image en petits morceaux, c'est-à-dire qu'on découpe dans le temps. Il y a l'influence d'Edouard Muybridge. Tout ça, c'est parce que les futuristes considéraient qu'il fallait dessiner le mouvement. Donc, du coup, il fallait découper le mouvement dans le temps. Et donc, c'est le tableau de Duchamp, la femme qui descend l'escalier. En fait, elle est découpée dans le temps.
Elle est découpée dans le temps.
Voilà. Et Averti sera totalement dans ce... Parce que lui, il va faire comme ça de la multiplication d'images. Il va être totalement dans cet esprit-là.
Donc, chers auditeurs, je vais vous faire une annonce. Alors, l'association de peinture et patrimoine lorrain. Donc, nous allons en Lorraine maintenant.
Oui.
Donc, il y a un salon du carnet de voyage et de l'illustration du 27 au 29 novembre 2026. Donc, l'association peinture et patrimoine lorrain. Donc, vous pouvez les contacter. Donc, je vous donne le téléphone. Alors, le 03 83 47 49 12. 03 83 47 49 12. Et le mail, c'est peinture-messien, M-E-2-S-E-I-N, @orange.fr. Alors, peinture, bah, comme ça s'écrit, -6, messien, M-E-2-S-E-I-N, @orange.fr. Donc, c'est une association qui fait un salon de carnet de voyage, mais qui fait aussi des salons de peinture. Et en 2023, elle a fêté les 30 ans de son salon de peinture, en 2023. Donc, une trentaine d'artistes, des peintres, il y a eu des invités d'honneur, voilà. Et la présentation du salon de carnet de voyage existe depuis en 2012. L'aventure a commencé en 2012. Donc, ça fait quand même déjà quelques années, quand même. Voilà. Donc, revenons à Jean-Christophe Aletti.
Voilà.
Je voulais faire donc cette présentation. Voilà. Revenons à Jean-Christophe Averti. Alors, Jean-Christophe Averti, donc, en 63, il crée l'émission de variété Les Raisins Verts. On en a parlé tout à l'heure. Hein.
Avec Michel Arnaud.
Avec Michel Arnaud.
Il y a Jean-Loup Dabadi.
Jean-Loup Dabadi aussi ?
Oui.
Donc, personne qui a composé beaucoup pour Julien Clerc, il me semble.
Oui, qui a écrit,
beaucoup de chansons.
Voilà.
D'accord. Et alors, cette émission, j'en ai un souvenir, mais est-ce que vous pourriez me décrire un peu cette émission ? Parce que j'ai pas un souvenir.
Cette émission.
J'en ai un souvenir, Les Raisins Verts.
Les Raisins Verts, c'est en noir et blanc. C'est une émission. En fait, il passe des chansons et des sketchs. Donc, voilà, il y a des sketchs. Mais entre les chansons. Alors. Tout est assez loufoque, hein. C'est un peu l'humour d'Harakiri, parce que le Averti est déjà très, très proche de
professeur Choron.
Du professeur de Choron d'Harakiri. Donc on est dans cet humour noir, un peu, très décalé et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de présentateur. Il refuse, il déteste ça. Donc c'est. Il y a des sketchs, très décalés, très, très provocants et tout ça. Il y a des morceaux de musique réalisés à la Averti avec pas mal de trucages et tout ça. Et entre chaque, il y a des petites virgules qui sont des merveilles. Parce que pour passer d'un sketch à une chanson, d'un truc, il met des petites virgules.
J'ai vu un reportage sur Jean-Christophe Averti. À un moment donné, il y a un pianiste. Donc, c'est un piano droit. C'est pas un piano à queue, c'est un piano droit. Donc, ce pianiste, piano droit, il est de profil. D'accord ? Donc, il joue le piano. Et puis après, il s'en va avec un trait noir qui le suit en dessous du piano.
Ah, d'accord.
Ça fait une drôle d'illusion d'optique, quoi.
Ouais.
Alors, je sais pas comment il peut... En fait, des images comme ça qui...
Oui, bah là, c'était du plateau, hein.
Comment ça se fait, je sais pas.
Voilà. Après, c'est très simple. Hein, au départ, Les Raisins Verts, comme c'est du noir et blanc, c'est des trucages très simples. C'est des caches contre caches. C'est de l'incrustation en luminance, mais c'est très, très simple. Hein.
Il fallait y penser.
Il fallait y penser. C'est grâce à Max de Brenne. Il a de... Et tout ça est mis... Il a des chorégraphes de talent. C'est Sanders. Il a des... Voilà, et puis il y a le talent de Jean-Loup Dabadi, il y a tous les gens qui tournent autour, il y a des acteurs comme Galabru, il y a Grosso et Modo, il y a toute une équipe
qui ont participé à des émissions
d'Averti, oui, beaucoup.
Grosso
beaucoup,
et Modo, qui ont joué dans beaucoup de films avec Louis de Funès.
C'était des
comiques de l'époque, quoi.
Et donc, ce qui a fait que, voilà, c'était une émission qui a marqué et que et qu'il a eu un Emmy Award. C'est une émission qui a très, très bien marché, quoi.
Comment elle s'appelle ?
Il a eu un Emmy Award. Aux États-Unis, je prononce mal, pardon.
Une récompense.
Une vraie récompense, parce que c'était très original pour l'époque. C'était très, très original.
Il faut se remettre dans le contexte des années 60. Ouais. Hein. 60, 70. Oui, ouais. Bon, il a jusqu'en 80, quoi, à peu près.
Jusqu'en 80. Oui, disons qu'il a des émissions, mais ses émissions régulières, il les a jusqu'à la... Oui, voilà, jusque dans les années 70, parce qu'après, il aura d'autres émissions qui seront, elles, en couleur, qui, avec la couleur, il va avoir l'incruste sous fond bleu. Donc là, déjà, son art va s'améliorer, va se peaufiner, et grâce toujours au talent de Max de Brenne et de toute son équipe. Donc là, il va pouvoir faire des dramatiques avec des décors totalement artificiels. Voilà, là, il va encore, avec l'arrivée de la couleur, les trucages vont prendre encore un aspect beaucoup plus...
Est-ce qu'il était fidèle avec ses, les gens avec qui il travaillait?
Ah oui, il a toujours eu... Il était assez fidèle. Et en fait, ça allait dans les deux sens. Il était assez fidèle et il fallait qu'il soit fidèle. S'il partait ailleurs, il n'aimait pas ça. Il avait une équipe. Je
ne
sais pas, mais bon, voilà, ça vraiment, je l'ai entendu. Mais il était très fidèle. Il avait une équipe. Il disait, moi... je travaille avec les mêmes caméramans parce que j'ai horreur d'expliquer les choses. Je veux des gens qui me comprennent, qui me connaissent.
Ouais, avec la fidélité, on va loin avec la fidélité.
Je veux des gens, je n'ai pas à leur expliquer. Je leur donne mes storyboards et ils comprennent tout de suite. Voilà.
Oui, ils se comprennent. Simple regard, ils se comprennent.
Voilà,
ouais. Parce qu'ils se connaissent bien. Alors, je vois aussi, c'est du jeu. Bon, chers auditeurs, je vous lis les passages de ce que disait Jean-Christophe Verratti. Bon, maintenant, vous avez pris un peu pied dans ces mots, parce que c'est vraiment brut de décoffrage. Hein. Mmh. Eh oui, mais bon, c'était l'époque. Hein. Je crois qu'il faut... Alors, en parlant des acteurs, je crois qu'il faut considérer l'acteur ou le personnage vivant comme un élément plastique, comme une tâche. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire comme une tâche? Alors, comme une surface colorée, et l'introduire et l'intégrer dans le décor, dans la page blanche, ou la page colorée, et le considérer comme un élément plastique, plus que comme un élément vivant. Autrement dit, quel que soit le chanteur, fût-il le plus grand, je ne considère pas comme un être à servir, mais je me sers de lui.
Ah bah oui, mais je vous dis, ça, c'est le, bah, c'est ce dont on parlait.
Acteurs, après, il parle des chanteurs, bon... mais enfin, l'acteur, lui, quand il fait un film, bon, il y a quand même un dialogue, il y a quand même... je veux dire, il n'est pas comme... à attendre que ça se passe, quoi. Enfin, voilà, il y a quand même un jeu d'acteur, il y a quand même des déplacements, il y a... si c'est un film physique, ben, il y a... il faut avoir la condition physique, quand même.
Voilà. Oui. Non, mais lui, il n'est pas du tout dans le cinéma. Hein. Je vous dis, c'est vraiment c'est le père Ubu, c'est ce qu'on disait. Donc, l'acteur est une marionnette. Après, voilà, il peut... lui, s'il est dans son registre de la télévision, il considère que, bon, ben voilà, l'acteur est comme une marionnette.
Donc,
voilà.
Il aimait bien la pataphysique, hein, parce que pour le pataphysicien... Bon, il y a des identités et des contraires. Hein.
Ouais.
Voilà.
Mais
la physique, c'est de faire croire, inventer un événement dans quelque chose de réel, mais qui n'existe pas.
Ouais. En fait, la pataphysique, c'est pour sortir de ce monde ubuesque.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il considère que le monde est pris par une grande gidouille. Donc la gidouille, c'est l'entre-dévornement des basses pensées, c'est-à-dire que c'est la personne qui veut en avoir plus, qui grappille, qui voilà. Donc pour vaincre ça, il faut des pataphysiciens qui partent, qui trouvent un autre langage et qui partent vers un autre monde, quoi, voilà. Ce que je voulais aussi dire, c'est que il va faire un film, hein, de fiction qui va s'appeler Le Beau Ténébreux. C'est un roman de Julien Gracq.
Ouais.
Et là, ça sera un vrai film. Là, avec des acteurs qui vont jouer, tout ça. Bah, après,
mais lui, il a joué dedans?
Non. Mais là, il va réaliser.
Il va réaliser le film.
Alors ça, je le connais. Ce film, je connais mal, quoi. Voilà. Je ne sais pas trop. Mais c'est là où. Là, on peut dire qu'il va faire avec des acteurs, avec un vrai jeu d'acteurs. Si vous voulez, c'est un film pour la télévision, mais c'est presque un film de cinéma, entre guillemets.
D'accord.
Voilà.
Alors là, il y a l'auditeur qui nous suit, ou l'auditrice. Dominique Walter est le fils de la chanteuse Michèle Arnaud.
Bon, Ça, je... Ouais.
Voilà. Et né en 42 et mort en 2013. Merci beaucoup pour le... pour ce suivi de cette émission. Et donc, la gibouille, la spirale, la gibouille, c'est la marche du monde. Ça part du nombril et ça enfle, ça accroît sans cesse pour devenir toute la Terre.
Ouais.
Le centre du monde, c'est mon nombril.
Oui, oui. Bah, c'est toute, c'est
excellent.
Toute,
ouais. Excellent.
C'est toute son idée de la moulinette, parce que le Averty est très connu pour le, ses bébés passés à la moulinette. Et la moulinette, pour lui, c'était sa mère qui, quand elle faisait de, quand elle, elle, elle mettait de la viande dans le hachoir, il avait peur que la main de sa mère passe dans le hachoir et qu'un jour il mange la main de sa mère. Voilà, donc tout, tout ça, c'est le... Bon, c'est très surréaliste, hein. C'est toute l'idée d'Averty qui a vu dans cette spirale, parce qu'on appelle ça la gidouille. La gidouille, c'est une spirale. C'est le... Et donc là, lui, il voit un élément cosmique. Voilà, bon, là, on est... Mmh. On est parti dans un truc... voilà, ça, c'est très...
Alors, chers auditeurs, j'ai un, bon, un message à vous passer... Alors, je vais vous parler de... Alors, maintenant, on va à Nice. À Nice.
D'accord.
Donc, on était dans l'Indre, moi, oui, en Lorraine. Maintenant, on est à Nice.
Nice, donc, je connais bien.
L'OSEMP. L'OSEMP Orchestra, donc de Nice. Alors, c'est l'Orchestre Symphonique Européen Musica et Peitz. Donc, la présidente de cet orchestre, c'est Josette Hibert, présidente de l'OSEMP, maison des associations La Luna, 265 Promenade des Anglais, rue G. Faro, 6210. Donc le téléphone, c'est le 07 69 86 46 14. 07 69 86 46 14. Et savez-vous, chers auditeurs, que l'Orchestre Symphonique Européen, l'OSEMP, organise tous les ans un concours de portraits de compositrices décédées. Donc très intéressant. Et donc l'orchestre se produit à Nice, en Italie, je crois. Donc, vous pouvez les contacter si vous voulez savoir participer à ce concours de portraits et si vous voulez les voir jouer pour avoir leur calendrier de récital. Voilà. Donc, la gibouille, donc on parle de Jean-Christophe Averty. Donc, la gibouille, ça part du nombril et ça enfle, elle croît sans cesse pour devenir toute la Terre. Elle est paradoxale, elle accapare le monde et même en même temps, elle le libère.
Mmh.
Elle accapare le monde et en même temps elle
voilà,
le libère.
Ouais, voilà, c'est tout le...
C'est... Faut suivre quand même.
Oui, il faut suivre. Oui, c'est tout le... Bah, il se disait pataphysicien. Il y a presque un club, hein, pataphysicien sur Paris, des disciples d'Averty et d'Alfred Jarry. Hein, c'est les satrapes. C'est bon, voilà, c'est un monde que je connais pas très bien, mais c'est Averty. Il y a quasiment sûr, entre guillemets, il y a quasiment une dimension religieuse un peu. Il est pas du tout religieux, hein, il est athée, il est machin, mais il y a dans son
une réflexion.
Voilà, une, alors c'est une réflexion intellectuelle, mais c'est une réflexion un peu philosophique, disons, et tout ça issu du thème de Jarry, qui va inspirer, je vous dis, les dada, alors. Les dadaïstes et les surréalistes. Tout ce monde-là, de la gibouille, du Père Ubu, de la pataphysique et tout ça, c'est...
Mais il était en perpétuelle ébullition.
Perpétuelle.
Tout le temps.
Ah oui, c'est...
Il était marié, il a eu des enfants.
Oui, il était marié, il a eu des enfants. Voilà, c'est un peu compliqué. Bon, je rentre pas, oui, j'aime pas parler de la vie privée.
Il fallait le suivre quand même. Hein.
Oui, il fallait le suivre. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il a une fille qui est une danseuse qui vit à New York, qui est une célébrité, qui est une danseuse classique.
Sa fille ?
Ouais, sa fille, ouais.
Ah, oui.
J'ai oublié son... Mais voilà, qu'on a rencontré quand il est décédé, mais voilà, qui a été quelqu'un qui a une célébrité, quoi. Et qui est toujours, je crois qu'elle est...
Donc il était connu aux États-Unis aussi ? Dans le monde du spectacle.
Dans le monde il a fait des shows pour les États-Unis. Il a fait un show avec Frank Sinatra, avec Sammy Davis Jr. et tout ça.
Même.
Il a travaillé pour la ABC. Mais oui. Là, il était connu des producteurs. Quoi, à un moment, il a été connu des producteurs américains. Il a travaillé pour des producteurs américains, ce qui est rare pour un réalisateur. Voilà. Ce que, ah oui, ce que je voulais dire, parce que j'avais pas le nom, c'était Dirk Sanders, qui était son chorégraphe. Ça a été un grand, ça a été un très bon chorégraphe.
Je et connais. Dirk Sanders, c'était ouais. ces danseurs qui passaient, qu'on voyait,
voilà,
qui étaient filmés du haut vers le bas.
Ouais, ouais,
Dirk Sanders.
Bien, voilà.
Exact. Et je m'en rappelle très bien.
Voilà. Et là, et donc ça, ça a été, il y a eu Jean Gélis aussi. Jean Gélis, c'est un autre chorégraphe.
Oui, oui, oui.
Voilà. Il a, et ça c'est important de les citer, parce que c'est, ça fait, c'est une équipe à Averti, hein. il n'est pas tout seul, hein. c'est une équipe, hein.
Vu le travail il a une quand même important qui, dans lequel il œuvrait, je dirais, tout seul il ne pouvait pas.
Bah, il ne pouvait pas, il le dit, hein, d'ailleurs, il le dit.
Ouais.
Ce qui est intéressant, si vous avez la possibilité, un jour, s'il vous plaît, c'est... parce que je pense qu'il faut regarder ces storyboards, pardon.
Ouais.
Ces storyboards sont à la BNF.
D'accord.
Dans le voilà.
Là j'ai une question pour vous, Philippe. Alors Averti travaillait-il seulement avec des trucages du type cinéma, ou a-t-il aussi mis en jeu des trucages électroniques en modifiant le signal vidéo ? Et si c'est le cas, qui les réalisait ?
Ben, c'est Max Debrenne.
Max Debrenne,
ouais.
Son réalisateur.
Non, c'est pas non, son ingénieur.
Son ingénieur.
C'est lui le réalisateur. Voilà, c'est Max Debrenne.
C'est lui le réalisateur. Son ingénieur.
Ouais. Il le dit, hein, sans Max Debrenne, j'aurais pu rien faire. Voilà, ça il le dit. C'est lui, c'est de l'électronique. Hein. C'est un ingénieur électronique qui faisait sa femme, qui est Françoise Debrenne.
Donc il travaillait avec des trucages du type cinéma.
Non, des trucages électroniques.
Des trucages électroniques.
C'est des trucages plus type vidéo. Non, c'est des trucages vidéo. Après, il a fait des films en 35, ils sont très bien. Hein. Il y a des choses. Peut-être qu'il y a quelques trucages dans les films 35, dans les prises de vue 35, mais c'est surtout du trucage vidéo, c'est surtout du trucage fond bleu. Hein.
Qu'est-ce qu'il dirait maintenant de notre époque avec le téléphone portable, avec
Moi déjà, quand je l'avais
le téléphone portable n'existait pas quand il est décédé.
Non. Si, il est décédé en 2017. Donc
en 2017. Ah oui,
moi, j'avais un ordinateur. Il me dit, moi, ces choses-là, je veux même pas l'entendre parler. Donc, parce que moi, je pensais qu'il avait vraiment l'aspect technique, pas du tout. L'ordinateur, il est vraiment avec l'électronique pure. Hein. L'ordinateur, c'est encore autre chose, parce que dans les trucages. L'informatique est arrivée à tout modifier.
Oui, il est mort en 2017, donc il y avait l'informatique, il y avait tout. Quoi.
En vidéo, on avait un problème, parce que moi, c'était les générations. On ne pouvait pas faire beaucoup de générations. C'est-à-dire que quand vous incrustiez des gens, vous ne pouvez pas, avec vos magnétoscopes et tout ça, amener des couches indéfiniment. Mmh. C'est ce qu'a permis l'informatique, c'est de pouvoir incruster indéfiniment.
D'accord.
Donc ça a été une grande révolution qu'Averti n'a pas connue. Averti faisait on pouvait faire 3-4 générations, mais avec l'intelligence de Max Debrenne, il arrivait à faire des choses incroyables. Il y a sa femme, Françoise Debrenne, que j'avais rencontrée, qui, elle, m'a dit, je suis la gardienne du temple, et je pense qu'effectivement, elle garde toutes ses archives et tout ça. Je sais pas, parce que ça fait longtemps, je pense qu'elle est encore en vie, mais voilà.
C'était un personnage passionnant.
C'est un personnage passionnant. J'aurais
vraiment voulu le connaître.
On peut consacrer sur l'œuvre d'Averti et sur tout ce qui en découle, on peut presque consacrer une vie. Hein. Je veux pas être quoi. Je
pourrais refaire une deuxième émission.
Ouais, on pourrait de machin.
Sur
même toutes ces histoires de surréalisme, de dadaïsme, toutes ces fictions, ces dramatiques et tout ça, c'est extraordinaire, extraordinaire tout ce qu'il a fait. C'est vraiment... Et encore, moi, si vous voulez, quand vous me dites que je suis un spécialiste, non, parce que j'ai pas encore tout exploité. J'ai beaucoup exploité sa partie, parce que ça, c'est ce qui m'intéresse, parce que moi, de temps en temps, je réalise des clips et tout ça. Surtout exploiter sa partie musicale, beaucoup
vous
moins dramatique.
Vous avez réalisé un clip ou une...
Oui, moi, je réalise des clips, quoi. Voilà, j'en réalise moins, mais voilà, j'ai réalisé des clips. Mais sur sa partie dramatique et tout son côté intellectuel... Et c'est ce qu'il avait souffert, c'est qu'on ne reparle plus d'ailleurs
Il est complètement, on ne connaît plus.
Voilà, mais ce côté intellectuel, il me dit, on va retenir de moi que de la moulinette. Alors que moi, j'ai porté un message pour lui.
C'est voilà. Évident qu'il a apporté un message.
J'ai apporté un message avec Jarry, avec le dadaïsme, avec le surréalisme, avec, par exemple, il a rencontré Dali, il a rencontré Duchamp, il a fait un film sur Dali qui est extraordinaire. Il s'est fâché un peu avec Dali, mais le film est extraordinaire avec la voix d'Orson Welles.
Avec Dali, j'ai vu dans le reportage, c'est avec Dali, il dit, quand on interview comme ça, c'est compliqué, c'est ça. Oui. Mais il dit, une fois qu'on est mange ensemble, on pourrait vivre 30 ans ensemble, quoi.
Oui, oui. Je pense qu'il y a eu un truc assez conflictuel, puisque Dali ne voulait pas refaire des prises. Ouais. Et alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment, il lui manquait...
C'est Dali.
Oui, oui. Et il dit, Dali ne refait pas une prise.
Oui, Dali.
Donc, il avait dit une phrase qui lui avait plu, mais il n'avait pas la fin. Il n'avait pas la fin du mot. Alors... Ce qu'a fait Averti, parce qu'il a pris un acteur qui a imité Dali pour finir la phrase. Ouais. Alors Dali a détesté, il dit on ne copie pas Dali. Voilà.
Chers auditeurs, voilà. Je vais vous reparler de un petit message sur la galerie Bérangère Violet à Pellevoisin, donc où il y a un pèlerinage très important qui a lieu tous les ans. Et cette année, c'est je crois que c'est les 150 ans de la vision de cette personne qui a eu lieu en 1876. Et voilà, donc la Galerie Violet est à Pellevoisin. Donc c'est bérangère.galerieviolet, V-I-O-L-E-T. Donc tout attaché à bérangère.galerieviolet@gmail.com. Alors le téléphone 06 40 23 60 55. Et donc... son père était un très grand photographe qui a fait beaucoup les 24 heures du Mans, qui a fait aussi son métier de photographe en Afrique, dans beaucoup de pays. Et donc, il connaissait très bien les 24 heures du Mans pour avoir travaillé sur ce thème de la course automobile. Quoi. Voilà. Donc, à Pellevoisin, dans la rue principale. Voilà. Philippe, le temps tourne très vite. Et ça a passé très vite.
Ah bon, oui, oui.
Quelle conversation. C'est passionnant.
Ah, c'est passionnant.
C'est passionnant.
Voilà, je ne retrouvais pas le prénom, là, j'ai retrouvé pendant que vous... C'est Karine Averti, sa fille, qui est une grande danseuse. Voilà.
Qui exerce encore maintenant
Je pense qu'elle exerce encore maintenant. Je n'ai pas suivi, mais voilà, elle a une notoriété.
Elle était dans le monde du spectacle.
Avec une vraie notoriété. Voilà. Quand vous tapez, voilà, Karine Averti...
Je ne savais pas.
Ben voilà. C'était une grande dame de la danse.
Je me renseignerai. Donc, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission.
Ouais.
Donc, un dernier mot quand même sur Jean-Christophe Averti, sur cette émission. Enfin, voilà. Je pense qu'on n'aura jamais, jamais fini d'en parler, quoi.
Non, je pense qu'on n'a jamais fini. Moi, j'ai été très heureux de faire ce film avec Mireille Dumas. Ça a été, pour moi, un an de passer de
Mireille Dumas, très bien.
Très bien. Et puis, elle a eu l'intelligence. Le truc, c'est que tous les gens qu'on a interviewés, on ne les a pas mis à l'image. Donc, ils étaient en off, et c'est Mireille qui voulait ça. Et du coup, c'est... On les a pas vus vieux, on les a vus dans leur jus, tels que les a filmés Averti. Ouais. C'était vraiment très très bien.
Donc, chères auditrices, chers auditeurs, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, on va quand même remercier Benoît qui réalise cette émission. On parle de réalisation, Benoît est là, et sans Benoît, l'émission se ferait pas. Ouais, c'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Donc un grand merci à Benoît, un grand merci à Radio Courtoisie qui nous donne la chance de parler de culture, d'art, ce qui est pas très courant actuellement dans certaines... Mais Radio Courtoisie le fait, et voilà. C'est très bien. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 5 mai 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.